Ce matin, je continue cette série « Perles de sagesse » et on est au volume 2. Pasteur Dominique nous a parlé la semaine dernière et j'ai écouté son message. Alors, je le remercie pour les mises en garde. J'ai trouvé ça extraordinaire pour ceux qui y étaient. Mais vraiment, j'aimerais que vous partagiez une sagesse qui a fait ses preuves. Ce matin, je vous parlerai pas de la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Non pas parce que ce n'est pas important, c'est un fondement hyper important du livre des Proverbes, mais parce que Dominique l'a abordé, alors on va regarder d'autres choses. Mais pouvez-vous imaginer quelqu'un qui écrirait une lettre il y a de ça 3000 ans et que ce serait aussi pertinent que ce qu'on trouve dans le livre des Proverbes? Moi, ça me fascine de voir à quel point même des conseils pratico-pratiques de quelqu'un qui a vécu 3000 ans avant nous peuvent être aussi droit au but, peuvent être aussi parlants. Et vous savez, quand, justement, je vais en parler parce qu'on n'a pas le choix, mais Proverbe 1:7 va dire « La connaissance commence par la crainte de Dieu ». Et finalement, cette crainte de Dieu-là nous pousse à rechercher ce que nous n'avons pas, mais que nous savons que Dieu a. La crainte de l'Éternel me pousse à rechercher ce que je n'ai pas déjà, parlant de la sagesse, entre autres, pour pouvoir la trouver à celui qui l'a parfaitement, Dieu lui-même. Ça vous va? Vous me suivez jusque-là? Même dans le livre des Proverbes, et je pense que Pasteur Dominique en a parlé un peu, même la sagesse, ça va parler de la sagesse et ça va la personnifier comme si c'était Dieu. Dieu, la sagesse, et puis là, va en parler dans un chapitre. Alfred Quinn a dit la chose suivante, « Par les proverbes, nous avons non seulement un art de vivre, mais l'art de vivre selon Dieu qui a fait ses preuves de génération en génération. » Les proverbes, c'est comme tout un ramassis de différentes maximes, de toutes sortes de phrases, de sagesse. Mais saviez-vous que les proverbes ont été écrits, ou du moins rassemblés sous un même livre, environ 200 ans après Salomon? C'est-à-dire que Salomon a partagé ses maximes, ses proverbes-là, mais ils ont été rassemblés quelques 200 ans après qu'il les ait composés. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que ces proverbes-là ont été mis à l'épreuve, c'est-à-dire que pendant 200 ans, ils ont été essayés, ils ont été éprouvés, et on peut voir justement que le temps les a fait perdurer. Je ne sais pas si ça vous émerveille, mais moi je trouve ça extraordinaire. J'ai de la misère, et même il y a des formations qui se font auprès de gouvernements à travers le monde, et ils se basent sur la sagesse des proverbes pour diriger la fonction publique dans différents pays, et les gens sont à terre complètement de voir à quel point cette sagesse-là de 3000 ans est source de vie pour même des organisations politiques en 2024. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Existe-t-il un autre livre qui a 3000 ans qui peut partager une telle sagesse? Et si je veux aller même plus loin que ça, puis là, je m'enligne dans le thème de mon message, si je vous disais qu'un gars qui a existé il y a de ça 3000 ans pourrait bien vous aider à mieux gérer 90% de votre argent, qu'en diriez-vous? Eh boy, il savait même pas c'était quoi les internets, puis les états financiers, puis les rapports d'impôts. Comment un gars qui a vécu il y a 3000 ans pourrait-il m'aider à mieux gérer 90% de mes finances? C'est le défi que je me donne ce matin. Et ce défi-là, ce que j'ai fait dans la semaine dernière, c'est que j'ai relu au complet le livre des Proverbes et j'ai noté tout ce qui avait rapport avec le travail, l'intégrité, la richesse, l'argent, l'or et tout ça. Tout ce qui a rapport avec l'idée de l'argent. Savez-vous quoi? Sur 31 chapitres, il y a plus de 101 versets ou groupes de versets qui en parlent. C'est majeur. C'est majeur. C'est à peu près une moyenne de 3 par chapitre. La semaine prochaine, on risque de voir qu'est-ce que les proverbes nous ont à nous partager au niveau des relations. Mais vous allez voir que l'art de vivre selon Dieu touche beaucoup plus le cœur qu'on peut l'imaginer. Et j'aimerais vous lancer peut-être comme première perle de sagesse l'idée que la gestion de nos finances est beaucoup plus un reflet de notre cœur qu'une opération mathématique. J'aimerais vous dire que la gestion de nos finances est beaucoup plus une question de cœur qu'une opération mathématique. OK, on parle des finances, vous êtes mal à l'aise. Vous savez quoi? Toutes les cultures sont mal à l'aise quand on parle de l'argent. Ça vous va? Bon, on est tous dans le même bateau. Mais savez-vous quoi? Même si tous sont mal à l'aise, la Bible en parle bien souvent, puis le livre des Proverbes l'aborde assez régulièrement pour qu'on puisse y trouver quelque chose pour nos vies. Alors, bon, je pense que je vais avoir besoin de vous convaincre plus que ça. On va commencer à regarder des textes dans le livre des Proverbes. Ça va. Juste peut-être vous mettre en perspective quelle est l'importance des richesses aux yeux de Dieu, et on va passer à la prochaine diapo. Lorsque vous voyez 22:2, juste comme ça, c'est le livre des Proverbes au chapitre 22 et au verset 2, OK? Fait que plutôt que de marquer Proverbe 100 fois dans mon PowerPoint, je me suis dit que ça allait alléger un petit peu l'affaire. Alors, Proverbe 22:2 va dire « Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » 17:5, « Se moquer du pauvre, c'est insulter son Créateur. » « Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. » Ecclésiaste, on sort un peu de Proverbes, mais on ne sortira pas bien longtemps, vous allez voir. Ecclésiaste 5, 18. « Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Pour prendre un langage néo-testamentaire, c'est une grâce de Dieu. Amen.
Oui, mais là, pasteur, moi, j'ai travaillé fort, j'ai étudié comme un malade. J'ai travaillé, j'ai bossé pour avoir cette opportunité-là. J'ai bossé pour monter, j'ai bossé pour avoir tout l'argent que j'ai présentement. J'ai travaillé, t'as pas idée.
J'aimerais vous dire que c'est une grâce quand même. Ça n'enlève rien au fait que ce soit une grâce. Et je ne dis pas que le travail n'est pas important. Mais il y a des endroits, il y a des pays dans lesquels vous auriez travaillé le même nombre d'heures, le même nombre d'études, et vous n'auriez pas eu 2% de l'opportunité que vous avez aujourd'hui. Il y a des époques où ce que vous auriez pu faire toutes les études du monde et bosser comme un fou, vous n'auriez pas eu un seul sou. Alors, de dire que tout est de ma faute parce que j'ai tellement travaillé, j'ai tellement étudié, j'ai tellement... N'oublions jamais que c'est Dieu qui est la source de tout. C'est une grâce de Dieu. L'opportunité que tu as, le milieu dans lequel tu as grandi, même l'opportunité d'aller étudier, l'opportunité de travailler, c'est une grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est pour ça que même à travers cette grâce-là, on peut voir que le pauvre et le riche se rencontrent, c'est Dieu qui les a créés l'un et l'autre. Il n'y a pas de différence. Mais est-ce que ça veut dire que le travail n'est pas important? Mais pas du tout. D'ailleurs, les Proverbes en parlent. On peut passer à la prochaine, le travail selon Dieu. Chapitre 13, et 4, verset 4. Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. Je vais vous dire la chose suivante, OK? On va voir beaucoup de proverbes et il y en a peut-être un qui va être une perle pour votre vie. Il y en a peut-être un autre, je vais dire, qu'est-ce qu'il veut dire, lui? C'est quoi ce proverbe-là? Mais il y en a un autre que ça va comme être, wow, je chéris ce proverbe-là dans mon cœur. Alors, soyez attentifs et attrapez la perle avant qu'elle ne se sauve, d'accord? Ça va? On continue. Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. 21:5. Les projets de l'homme actif sont tout profit, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. Intéressant. Vous savez, le livre des Proverbes ne nous dit pas, et là, je m'adresse peut-être à des jeunes adultes, le but de la vie n'est pas de trouver un travail avec le minimum d'efforts pour gagner le plus d'argent. Ce n'est pas l'objectif de la vie, OK? Il se pourrait que ce soit ton objectif, fine, Mais j'espère que Dieu aura le dernier mot. Ça va? Bon. C'est pas une critique, mais peu importe le secteur d'activité, on l'a vu il y a de ça quelques semaines, toute vocation, tout travail est sacré. Non parce qu'il prie le Seigneur à toutes les minutes, mais parce qu'il est l'expression de la place de la personne dans le grand corps de Christ à différents endroits. C'est-à-dire que il n'y a pas de vocation plus sacrée que d'autres. L'important, c'est d'être à l'endroit où est-ce que Dieu nous appelle à être. Et ça, ça peut être dans tous les secteurs d'activité. Là, vous dites, ah ouais, tous les secteurs d'activité qui sont dans la droiture et la justice, OK? Ça va? Merci de comprendre cette petite notice de fond de document, OK? Mais en fait, l'idée, c'est que peu importe le secteur d'activité, nous sommes appelés à travailler fort. Amen? Oui, travailler fort, oui. Pas burn-out, travailler fort. Et surtout à le faire avec intégrité. Et justement, le livre des Proverbes en parle également. On l'a à l'écran, l'intégrité selon Dieu. Exploiter le faible, c'est insulter son créateur. Mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. Deux poids différents et deux mesures différentes font l'un et l'autre horreur à l'Éternel. Là, vous êtes, de quoi qu'il parle ici? Des mesures, des poids différents. C'est comme la balance sur laquelle on pesait l'or pour une transaction. Et il y en a qui faisaient exprès pour ajouter du poids d'un bord ou de l'autre pour être capable d'avoir 10 % de plus de métaux pour la transaction. Rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Des gens manigancés pour avoir un petit 5 % de plus, là? Des gens qui ont acheté pour $1 million de coke pour avoir 10 cents de canettes plutôt que 5. Non, c'est une joke. Mais cette idée d'avoir deux poids, deux mesures, c'est-à-dire de fausser cette balance-là, fait en sorte que c'est horreur à l'Éternel. 22:16, celui qui exploite le faible pour augmenter son bien ou qui donne aux riches n'arrive qu'à la misère. Et cette idée-là de sagesse, crainte de Dieu, ce début de la sagesse, inclut cette idée d'honorer sa création, d'honorer la création de Dieu, d'honorer les gens qui en font partie. Tous sont égaux en valeur, peu importe l'inégalité de leur situation financière. Quelqu'un qui est riche n'est pas plus important que quelqu'un qui est pauvre, et vice-versa. Chacun a une valeur égale. Et cette valeur-là égale vient également appuyer cette valeur importante de la justice, de l'intégrité. Parce que vous savez quoi? Exploiter le faible, exploiter les autres, falsifier les poids, faire des entourloupettes d'impôts, des entourloupettes de feuilles de travail ou de feuilles de temps, laisser les autres travailler quand on est apte à le faire, tout cela vient augmenter le fossé de la valeur qu'on porte aux autres. Parce que quand on est en train de faire ça, on est en train de dire « Je suis plus important que les autres. J'ai droit à un privilège supplémentaire. Je vais exploiter le fait, mais moi, j'ai le droit parce que moi, je suis plus important. Je vais faire des entourloupettes d'impôts parce que je considère que moi, ça va m'aider, peu importe ce que ça fait aux autres. » Ça, c'est la même chose que, vous avez vu ça sur l'autoroute, tu sais, quelqu'un que l'autoroute lui appartient. Tu sais, le gars là qui dépasse tout le monde, puis qui il va sur l'accotement, il fonce à 70 km/h pendant que tout le monde est arrêté, puis après ça, il voit une fente, ça de gros en deux champs, puis fiou, il se faufile. Vous dites, ah oh non, mais là, il est pressé. Le problème là-dedans, c'est pas que tu sois en avant des autres. Le problème, c'est que tu es en train de dire, je suis plus important que tous ces autres chars-là. Eux autres, ils comprennent pas. Moi, je suis plus important. Vous comprenez? Et lorsque, ça veut dire qu'exploiter le faible, c'est insulter son créateur, ben, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu es en train de te considérer supérieur parce que tu es en train d'exploiter quelqu'un qui finalement a une valeur égale à toi. L'intégrité, c'est ça, hein? L'intégrité, ça parle. Soyons de ceux, on ne pourra jamais équilibrer l'inégalité financière. Vous êtes au courant de ça? Ça, ça se passe au ciel. Amen? Ah, ça se passe au ciel, ça. Mais soyons de ceux qui ramène l'égalité de la valeur de chaque être humain. Chaque être humain est égal. Je devrais entendre un autre plus gros amen, mais en tout cas, je sais que vous êtes endormis. Ça va. Peut-être que vous dites, ben moi j'ai le droit de dépasser tout le monde en char. Moi, je suis plus important ce matin. Amen, c'est ça. Merci. Je l'attendais. Et vous savez quoi? L'Écriture, dans le livre des Proverbes, va utiliser une expression à plusieurs reprises. « Mieux vaut peu. Mieux vaut. » Et on va regarder ça ensemble, c'est vraiment intéressant, OK? Ah oui, on l'a. Et c'est un verset qui me trouble comme gars qui n'est pas végétarien une seconde, OK? Chapitre 15, versets 16 et 17. « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Mieux vaut un plat de légumes où règne l'amour qu'un bœuf engraissé sur le barbecue dans la maison de la haine. Il vaut mieux un plat de légumes tant qu'à ça. Mais ça continue, hein? Mieux vaut peu honnêtement gagné que de grands revenus acquis injustement. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. 19.1, l'autre diapo. Mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité que l'homme stupide aux lèvres fausses. Mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un riche qui emprunte des voies tortueuses. Je parlais avec quelqu'un ce matin qui me disait que le chapitre 30, versets 7 et 8 est une prière qu'il fait régulièrement depuis des années. Et je pense pas que c'est Salomon, celui-là. Je pense que c'est un autre des sages qui a écrit une partie des Proverbes. Mais il va dire la chose suivante. Je te demande deux choses, comme une prière. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Et ne me donne pas ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Amen. Vous savez, je veux honorer des gens ce matin. Des gens qui ont refusé de l'argent facile pour des motifs de conscience et de justice dans le Seigneur. Il y a des gens ici, puis je connais certaines histoires de gens qui auraient pu recevoir des sommes, que ce soit du gouvernement, pour toutes sortes de failles dans le système qu'ils auraient pu exploiter. Des gens qui auraient pu recevoir plus que 100 000 $ et qui, par désir de conscience, ont dit non, ce ne serait pas juste de recevoir ce montant-là. Et il y en a qui l'ont fait pour une demi-heure de travail. Ça n'a pas besoin d'être 100 000. Il y a des gens qui ont choisi, de juste par motif de conscience, par justice devant le Seigneur, de refuser de l'argent facile parce que leur cœur était plus important que ces finances-là. J'aimerais qu'on puisse les applaudir ce matin. J'aimerais qu'on puisse. Et si c'est vous, vous recevez ces applaudissements-là. Vraiment. C'est si facile dans un monde comme le nôtre. Et vous savez quoi? Peut-être que les néo-Québécois qui sont ici comprendront pas tout ce que je vais dire, mais les Québécois qui ça fait peut-être 15-20 ans qu'ils sont ici au minimum, les Québécois sont bons pour être des bougons. Bougons, c'est une émission de télé. Puis leur vie était consacrée à trouver des failles dans le système pour pouvoir recevoir des bénéfices ou de l'argent qu'il ne méritait pas. Avec des fois, on dit ça, mais c'est dans notre culture d'essayer de trouver des petites failles, des petites affaires, c'est pas si grave que ça, tout le monde le fait. Puis, moi, je veux honorer ceux qui décident par motif de conscience d'être intègres dans leurs finances. Parce que tant qu'à moi, c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça d'être un témoin de Jésus-Christ. C'est ça de ressembler à Jésus-Christ. C'est de dire, non, moi, je préfère passer par le chemin plus dur s'il faut, mais garder l'intégrité de mon cœur. Alors, bon, petite bulle, petite parenthèse. À tous ceux que ça appartient, à tous ceux qui disent « Wow, personne n'aurait, j'aurais jamais pensé qu'un jour l'Église m'applaudirait pour ça », ben recevez-le parce que franchement, c'est quelque chose d'important. J'aimerais vous poser une question. Elle est à l'autre écran, je pense. Si, ouais. Qu'est-ce qui changerait dans votre façon de gérer votre argent si vous décidiez que le peu que vous aviez pouvait être suffisant? Là, c'est encore à peu près à ce niveau-là. Si j'attends 5 secondes, ça peut peut-être descendre un peu plus bas. Qu'est-ce qui changerait dans votre façon de gérer votre argent si vous décidiez que le peu que vous aviez pouvait être suffisant? Il y a un auteur québécois qui a écrit un livre à grand succès qui est très drôle parce que le titre du livre, en gros, c'est marqué « En as-tu vraiment besoin? » Mais la question se pose à savoir si vraiment tu as besoin de ce livre-là ou pas. Je pense que les proverbes pourraient suffire, là, mais je l'ai lu. Il n'y a pas rien d'épouvantable là-dedans. Mais l'idée, est-ce que tu en as vraiment besoin? Je pense que c'est une question qui mérite notre attention en 2024. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on achète parce qu'on pense qu'il nous manque quelque chose. Alors que, qu'est-ce qui arriverait à la gestion de vos finances si vous décidiez que le peu que vous aviez pouvait être suffisant? Et là, j'ai deux textes que vous voyez à l'écran. Dans Hébreux 13:5, ça veut dire « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne vous délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Matthieu 6:11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Quelle grâce, hein? Quelle promesse! C'est Dieu qui nous demande de prier ça. Hey, priez pour que Dieu nous donne notre pain d'aujourd'hui. Et vous savez, il y a une telle disproportion dans notre société de la valeur de l'argent, comme si c'était la chose qui réglait tous les problèmes du monde, comme si c'était la chose la plus élevée qui existe. Et ce qui est intéressant, c'est que Salomon a été probablement un des hommes les plus riches de l'histoire. Alors, il parle pas des deux travers de la bouche. Il parle pas des deux bords de la bouche. Il sait qu'est-ce que c'est. Il l'a déjà eu, cette richesse-là. Il n'en parle pas comme si c'était quelque chose parce que les autres en ont. Je vais en parler en mal. Ou je vais dire que c'est pas si important que ça. Non, au contraire. Il l'a eu. Il l'a accumulé. Parfois, il y a des proverbes ou des gens qui partagent des choses qui sont juste par jalousie parce qu'ils n'ont pas plus d'argent ou parce qu'ils n'en ont pas assez que, comme ils voudraient. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, voici ce que Salomon va dire. Chapitre 8, versets 10 et 11, merci. « Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles, hein, même que les perles de sagesse. » La sagesse vaut mieux que les perles de sagesse. Oh, en trop. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Chapitre 16. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Chapitre 20. Il existe des objets en or et des perles en quantité, mais la parure vraiment précieuse, ce sont des lèvres qui transmettent la connaissance. Chapitre 22. Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Amen. Alors voici les choses, puis si je fais juste un petit wrap-up de tout ça, un petit résumé, voici les choses qui sont plus importantes que l'or et l'argent selon Salomon. La connaissance, la sagesse, les instructions du Seigneur, l'intelligence, une bonne réputation, la grâce et la crainte de Dieu. Si, admettons, on veut y aller pour mettre l'argent le plus haut possible, il est 10e sur la liste. Des fois qu'on inverse ça, hein? Dans notre société, il y a des gens qui sont prêts à perdre leur réputation pour une vidéo de TikTok qui va leur donner 85$. Vrai ou pas vrai? Il y a des gens qui sont prêts à n'importe quoi, puis ils disent « ma réputation, ça me dérange pas. D'avoir l'air fou, ça me dérange pas. » De faire des choix épouvantablement, pas sensés, ça ne me dérange pas parce que je considère que l'argent est plus important que toutes ces choses-là. Mais l'Écriture nous ramène ça dans le bon ordre. Et peut-être que si les croyants étaient aussi zélés pour augmenter leur sagesse et leur connaissance de l'Écriture qu'ils le sont pour augmenter leurs finances, il se pourrait qu'on soit encore plus sages qu'avant. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Peut-être que non. La parole va dire, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela, toutes ces choses matérielles vous seront données par-dessus. Hein, par-dessus. Et ça, ça nous montre encore l'échelle de priorité, n'est-ce pas? Bon, ça va, vous êtes réactifs, j'aime ça. Vous savez quoi? Les gens s'appuient sur leur richesse Ils s'appuient comme si c'était l'ancre de leur vie. Comme si la richesse était la sécurité ultime de notre vie. Mais savez-vous quoi? Salomon en parle aussi. S'appuyer sur ses richesses selon Dieu. J'aime beaucoup celui-là. La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. Chapitre 11. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, tandis que les justes verdiront comme le feuillage. Chapitre 23. Et ça, c'est comme le slogan de Red Bull. Red Bull a des ailes, mais ici, c'est l'argent a des ailes. Vous allez voir, chapitre 23. « Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu la poursuivre du regard? » Piou, elle est disparue. « En effet, la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol dans le ciel. » Piou, elle est partie. Mais la parole nous encourage à se confier en l'Éternel. À se confier en l'Éternel de tout son cœur. Hein, Proverbe 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 1 Timothée 6. Aux riches de ce monde ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. L'idée de mettre ses appuis dans ces richesses-là. Mais de placer leur espérance dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions, qu'on en profite. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. Vous savez quoi? On dit souvent que l'argent est un excellent serviteur, mais un bien mauvais maître. Vous avez déjà entendu ça? Oui? Si vous l'avez jamais entendu, je le répète. L'argent est un très bon serviteur, mais un bien mauvais maître. Et honnêtement, dans tout ce qu'on a lu jusqu'ici, est-ce qu'on a dit que la richesse, c'était péché d'être riche? Non. Est-ce que l'argent est péché en tant que tel? Non, pas du tout même. En fait, l'argent est très neutre. L'argent prend une place malsaine lorsqu'elle prend la place de Dieu, lorsque sur l'échelle des priorités, elle se retrouve à un endroit où elle ne devrait pas être. C'est vraiment juste ça. Dieu a créé, non pas seulement le pauvre, mais il a créé aussi le riche. Les deux se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a faits. Fait que je veux que nous enlever cette mentalité-là que l'argent, c'est mal. Non, pas en tout. Il n'y a pas rien dans l'argent qui est comme dégueulasse. Non, au contraire. La parole va nous dire que si nos vies sont conduites par l'amour de l'argent, là, on a un sapristi de problème. Là, on est dans le trouble parce qu'on substitue notre confiance en Dieu et on s'appuie sur les richesses de ce monde, sur nos possessions, sur nos biens, sur nos ci, sur nos assurances, sur les placements, les ci, les ça. Et toutes ces choses sont des bonnes choses. Je vous encourage à investir pour votre avenir. J'encourage à placer de l'argent pour l'avenir. C'est d'ailleurs ce que font les animaux sur Terre. Ils se font des réserves en vue de l'hiver. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non! C'est une loi naturelle. Je suis pas en train de dire que l'argent est mal. Au contraire! Au contraire! Mais s'appuyer sur cette richesse-là pour nous donner la sécurité de la vie, je vous le dis, votre niveau de sécurité ne sera pas plus élevé que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui nous rend sécure. C'est notre relation avec Dieu. C'est Dieu, c'est l'Écriture qui nous ancre dans quelque chose d'éternel et pas juste de temporaire. Et vous savez quoi? Dans le verset de Timothée, ça va dire « Hey, Dieu donne tout avec abondance pour que nous en jouissions, pour que nous en profitions. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si tu as de l'argent, il ne faut jamais que tu la dépenses. C'est aussi malsain. Mais non, justement, c'est fait. C'est fait pour être dépensé. Avec sagesse, évidemment. Vous comprenez? Bon. Utiliser, investir sa richesse pour le bien. Et ça, il y a quelque chose de beau là-dedans. Ah, ben merci, c'est déjà là. Chapitre 10. Le salaire du juste sert à la vie. Le revenu du méchant sert au péché. Le salaire de chacun d'entre nous qui sommes justes sert à la vie. La femme vertueuse dans le chapitre 31, elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Investir dans ce qui est juste, qui est bien. Aucun problème là. Chapitre 3. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Pouvez-vous imaginer ça? Vous n'avez pas besoin d'aller à SAQ. Ça coûte cher ces temps-ci. Chapitre 11. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Chapitre 19. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel qui lui rendra son bienfait. Avez-vous déjà fait ça, un prêt à l'Éternel? On peut le faire. Chapitre 22. L'homme au regard bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux plus faibles. Et vous savez, des fois, on dit que d'investir le salaire du juste pour le bien, tout de suite, on pense, OK, là, il faut le donner à l'Église. Pas nécessairement. Le salaire du juste qui sert à la vie, bien, ça sert à la vie de votre famille, ça sert à la vie des gens qui vous entourent, ça sert à votre vie. Ouais, bien, c'est ça. C'est pas dire qu'il faut donner tout à l'Église, là. C'est pas ça le point. Pas du tout. Pour le bien des pauvres, pour le bien de ce que Dieu considère bien. Le problème, c'est quand on prend notre salaire ou nos choses, puis qu'on fait juste acheter des futilités, des choses pour que notre voisin soit jaloux. Au Québec, on a une expression qui parle du voisin gonflable. C'est-à-dire que quand le voisin s'achète une souffleuse, toi, il faut que tu achètes celle qui a deux gears de plus et qui va sur des chenilles plutôt que des roues normales. Lorsque ton voisin achète un barbecue, toi, t'en achètes deux. Moi, je teste ça chez mes voisins. Je me demande s'ils sont si gonflables que ça. J'en ai trois, puis j'espère en avoir un quatrième prochainement. J'aimerais ça qu'il y ait un voisin qui n'aille quatre. On pourrait jaser, ce serait le fun, mais non, ils sont pas jaloux. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est cette idée-là d'investir dans les choses qui sont bien, pas juste des futilités, pas juste des choses qui sont comme... C'est juste du vent, juste de la vanité, juste du n'importe quoi. Tu sais, des fois, on dit que le contraire de bien, tu sais, le salaire du juste sert à la vie, sert à ce qui est bien. Ben, le contraire de bien, c'est pas nécessairement juste le mal. Le contraire de bien, c'est aussi toute la futilité dont je parle, toute la peur de pas être comme les autres. Et si on faisait un examen de conscience, quelle chose j'ai acheté à la sueur de mon front pour pas être différent de quelqu'un d'autre? Là, vous dites, ça coûte cher, ça, hein, des fois. Ben oui, ça coûte cher. Matthieu 6 va dire, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous devenons libres d'investir pour le bien et de s'amasser des trésors dans le ciel quand nous ne sommes pas esclaves ici sur terre. Et vous savez quoi? Les proverbes en parlent aussi. On a les versets. Chapitre 6 des proverbes. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Se porter garant, c'est-à-dire, c'est d'endosser la dette de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si lui ne paye pas, c'est moi qui vais payer. Ne faites pas ça de grâce. Chapitre 22. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Prenez votre carte de crédit, là, puis considérez que ça se peut que vous soyez esclave de la compagnie qui est écrite dessus. Je ne vous le souhaite pas. Je ne te le souhaite pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, on parle pas de dette, genre j'ai acheté une maison, je n'étais pas capable de payer ma maison cash. On parle de dette de consommation, on parle de dette pour acheter des choses qui ont peut-être pas besoin d'être achetées. Chapitre 22, encore un peu plus loin. « Ne figure pas parmi ceux qui prennent des engagements, qui se portent garant pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève le lit sur lequel tu te couches? » Et parfois, on prend des emprunts, des engagements. Et au final, on le fait. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, on a peur de manquer quelque chose plutôt que d'avoir l'argent pour l'acheter. Maintenant, ici, pause. Là, vous dites, ouais, mais là, une maison, qui pourrait ramasser assez d'argent pour payer une maison cash? C'est pas de ça que je parle. C'est pas des dettes d'un bien durable comme celui de la maison. Je parle de dettes de consommation. Je parle de dettes pour manger, pour aller au resto, pour acheter la souffleuse avec les chenilles puis les deux guires de plus que tu n'as pas besoin. Parce que cette année, il a neigé, tu aurais besoin de la sortir juste trois fois. Mais vous savez quoi? Les dettes de consommation révèlent souvent une des situations suivantes. De un, il y a une situation qui a changé de façon catastrophique dans votre vie, puis pour des raisons qui vous dépassent, c'est une catastrophe, puis il n'y a pas d'autre solution. Deux, bien, des fois, c'est parce qu'on a des revenus très faibles qui nous obligent à emprunter. Mais encore là, si tu as des revenus tellement faibles pour emprunter, comment vas-tu rembourser? Ça, c'est une autre question. Troisième option, c'est que c'est une mauvaise gestion du 90%. Puis ça arrive. Souvent, les prédicateurs vont parler juste de donner, donner, donner. Puis ça ne tarde pas au 90% qu'on a besoin de gérer. Ou dernièrement, si tu es dans des dettes de consommation, ça révèle que ton cœur te dit que tu as besoin de quelque chose d'autre que Jésus pour être heureux. Peut-être que vous trouvez ça dur. Peut-être pas. Mais je fais juste, des fois, tu sais, le livre, en as-tu vraiment besoin, là? Ça vaudrait à peine un peu. Romains 13 va dire la chose suivante. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ce matin, je ne vous ai pas partagé 100 versets. Hein? J'ai peut-être pris 20 parmi les 100 qui sont là. Alors, si vous voulez ouvrir le livre des Proverbes et en découvrir plein d'autres, vous êtes les bienvenus, parce qu'il y en a encore plusieurs autres. Mais j'ai essayé de voir à quel point est-ce que cette sagesse-là est encore pertinente pour nous aujourd'hui. La gestion du 90% que Dieu nous donne pour qu'on puisse en profiter, qu'on puisse s'en servir pour le bien. J'aime ça quand vous êtes curieux. Ceci est un couteau. Inquiétez-vous pas, OK? Je ne le lancerai pas dans la salle. Vous savez, c'est quoi un avocat? Quelqu'un aime l'avocat ici? Quelqu'un aime vraiment l'avocat de deux mains? Ah là, hey, wow! Avouez que chacun d'entre nous, quand on a un avocat, on se pose une question. Quelle grosseur va être le noyau? Parce que quand le noyau est trop gros, ça me pique la chair que j'aime manger. Ouais, il n'y a pas juste moi qui se pose cette question-là. Des fois, il est gros de même, des fois, il est gros de même. J'ai essayé de cogner dessus. Vous pourrez cogner, le pitcher partout. Vous pourrez le passer au rayon X. Tant que vous ne l'avez pas ouvert, vous ne savez pas de quelle grosseur est le noyau. Et je vais essayer de ne pas me couper. Je vais faire comme si j'étais un cuisinier expert. J'ai réussi. Jackpot, il m'a piqué tout mon avocat l'écœurant. Il est vraiment gros. Et puis là, je ne sais pas comment vous sortez le noyau, là. Je vais essayer de ne pas me beurrer les mains. Un noyau, un avocat, puis en plus, il est parfait. Tu sais, genre d'avocat là, que tu prends en cuillère, puis tu manges. C'est extraordinaire. Il est parfait.
Parfait, parfait, parfait.
Et il y a un concept qui fait partie de l'avocat. C'est un concept universel même pour nous. Et puis, je reprends un prédicateur qui a fait une illustration. Je l'adapte pour vous, OK? C'est pas la même illustration, mais qui ressemble un petit peu. Et vous savez, quand je regarde mon avocat, je trouve que le noyau est pas mal une nuisance. Parce que quand j'essaie de croquer le noyau, avez-vous déjà essayé de goûter au noyau? Si vous y avez déjà goûté, vous avez compris que c'est pas ça le but de le manger. C'est pas supposé être mangeable. Des fois, on voit le noyau comme étant une nuisance, comme quelque chose qui nous empêche de manger plus du fruit qui est vraiment excellent. Et d'ailleurs, il semblerait, selon des études, qu'il y a un élément toxique là-dedans qui fait en sorte que, si j'ai un conseil à vous donner au niveau nutrition, ne mangez pas le noyau. OK? Bon, vous pouvez faire à votre tête. Mais, semblerait-il qu'il y a un petit produit toxique qui se retrouve dans votre ventre. Vous savez, comme croyant, des fois, on essaye de tout manger et on ne fait pas la distinction entre le noyau et la chair. Vous savez, chacun d'eux a chacun sa partie et son utilité. Et parfois, on essaye de tout manger, on essaye de manger le noyau partout, plutôt que de manger juste la chair qui est excellente. C'est extraordinaire. J'ai beaucoup de plaisir à boire de l'eau hein, quand vous me regardez ou manger. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, peut-être de mes années comme pasteur jeunesse. Le noyau, en fait, si vous êtes intelligent un peu, vous savez qu'il sert à quelque chose, c'est que je puisse en avoir d'autres, des avocats comme ça. Parce que le but, le noyau est une semence. Et le fruit est le fruit. Et parfois, dans nos vies, on essaie avec ce que Dieu nous donne de tout bouffer, même s'il y a des toxines, plutôt que de juste dire « Je le mets en terre, terre, et je le laisse grandir. » Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? 25 cents pour une bouchée? Ce que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu nous donne beaucoup, énormément, nous donne des choses extraordinaires comme la chair de cet avocat-là, qui est bonne. Ceux qui n'aiment pas ça, pensez à un autre fruit ou un autre légume que vous aimez. Donne des choses extraordinaires, mais nous donne également la mission de semer. De pas juste tout prendre pour nous, mais de comprendre que dans le royaume, il y a une partie que Dieu nous demande de manger et de profiter. Et c'est extraordinaire, mais il nous demande avec une autre partie de la semer et de laisser à Dieu faire croître ce champ d'avocat ou cette autre plante d'avocat. Vous savez, des fois, on donne, on investit, puis on ne sait pas ce qui va se passer. Dans ça repose un potentiel qu'on ne voit pas. On ne sait pas comment tout ça va se faire. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez essayé des fois de mettre un pépin, de le déposer, puis après ça, trois jours après, vous le déterrez pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Ça ne poussera jamais, hein? Il faut la laisser reposer pour que Dieu puisse la faire pousser. Et la gestion de nos 90%, c'est exactement ce qu'on fait avec la chair de cet avocat-là. Elle est faite pour être bonne en nos corps. Elle est faite pour nous nourrir, pour nous soutenir, pour nourrir notre famille, pour nourrir nos proches, pour donner aux pauvres. Mais il y a un autre montant qui appartient à Dieu et qu'on fait juste mettre en terre et on sait que c'est Dieu qui va le faire grandir. Fait que la sagesse, des fois, on parle juste de ça qui est dans terre, on parle juste de ce qu'il faut donner, mais on oublie qu'on a besoin d'user de sagesse avec le fruit que Dieu nous donne. Vous me suivez ce matin? Ouais, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. C'est bon. Soyons pas de ceux qui tente de tout bouffer par peur de manquer quoi que ce soit. Mais faisons confiance au Seigneur que lorsqu'on sème, c'est lui qui nous fait récolter. Amen. 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 Ce que j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, OK? C'est que j'aimerais qu'on puisse prier pour la sagesse de Dieu pour gérer mes finances, pour gérer vos finances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'on pourrait prier que Dieu nous aide dans la gestion de nos finances? Franchement, je pense que c'est un besoin universel dans tous les pays de la terre, dans toutes les cultures, de toute génération. J'ai besoin de la sagesse de Dieu pour demeurer dans le contentement. J'ai besoin de l'habileté du Seigneur pour sortir de mes dettes de consommation. J'ai besoin de la sagesse de Dieu pour marcher dans l'intégrité à tous égards. J'ai besoin de la sagesse de Dieu pour m'appuyer sur Dieu et non pas sur des richesses incertaines. J'ai besoin de la sagesse de Dieu pour investir dans ce qui amasse des trésors dans le ciel et non sur cette terre. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Ce matin, on va faire quelque chose. On va prier. On va prier pour ça. Et si vous avez des besoins qui soient financiers ou qui soient d'autres, peu importe les besoins que vous expérimentez dans votre vie, pendant que les musiciens vont jouer, je vous invite à vous approcher puis on va prier pour vous. Que ça soit maladie, une situation d'emploi, que ça soit dans la gestion de vos finances, peu importe, notre but c'est pas d'être indiscret, le but c'est de prier, OK? Mais avant d'aller là, on va juste prier pour nos finances. Alors on va faire quelque chose, on va mettre nos mains dans nos poches pour prier. Vous êtes prêts? Vous êtes capable de faire ça? Si vous avez une robe, je m'excuse, OK? Faites semblant. Mais c'est l'idée de bénir nos poches. C'est là que se ramasse habituellement le portefeuille. Vous comprenez? Vous comprenez le geste? On va juste prier pour la sagesse de Dieu, parce que franchement, on en a tous besoin. J'espère que c'est pas la première fois que vous priez les mains dans les poches. Si c'est une première, ça me fait plaisir. Seigneur Jésus, on veut t'élever, on veut te remercier pour cette sagesse qu'il y a en toi, cette sagesse qu'il y a dans les proverbes. Et Seigneur, nous voulons être de ceux qui profitons du fruit de ce que tu nous offres par ta grâce pour gérer tout ça avec justice, intégrité, avec cette valeur du travail et cette reconnaissance que tout vient de toi. Alors Seigneur, je veux te prier pour de l'habileté, Seigneur, dans toutes les mains, dans les poches qu'il y a dans ce lieu et ceux qui sont à la maison, afin que chacun d'entre nous puissions être sages, sages non pas aux yeux de ce monde, mais sages aux yeux de ta parole, Seigneur, afin que nous puissions être de ceux qui investissons dans les choses qui sont importantes, que nous profitions de ce que tu nous donnes dans les choses importantes. Alors, Seigneur, apprends-nous, apprends à nos mains à être contents de ce que nous avons. Mieux vaut peu en toi que beaucoup loin de toi. Alors Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu puisses donner ni pauvreté ni richesse, mais que tu puisses accorder à chacun le pain quotidien dont il a besoin. Et Seigneur, nous allons te rendre gloire, Seigneur, parce que tout ce que nous recevons, Seigneur, ça vient de toi. Tout ce que nous avons comme opportunité, c'est toi qui as ouvert les portes, c'est toi qui as ouvert le ciel, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Alors Seigneur, ta parole dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande non pas en doutant, non pas comme en étant un bateau transporté de gauche à droite, ballotté, mais qu'il la demande avec foi et elle lui sera accordée. Alors Seigneur Jésus, puisses-tu nous donner toute la sagesse dont nous avons besoin, comme individu, comme famille, comme peuple de Dieu, et tous ceux qui sont en accord disent Amen.